Bonjour et bienvenue dans Starting Block. Aujourd'hui, Radio Campus Paris vous propose un patchwork de la scène musicale et ludique en Ile-de-France. Un tour d'horizon musical ludique donc, qui vous présentera des compositeurs de musique de jeux vidéo plus ou moins connus et des organisateurs de concerts spécialisés. Au programme, un zoom sur Morusque, puis sur Sylvain Elio et Xavier Thierry, trois compositeurs de bandes originales pour des studios de jeux vidéo indépendants parisiens. On partira ensuite à la rencontre du label Wayo Records, qui invite régulièrement à Paris de grands compositeurs japonais à se produire sur scène. Mais commençons par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on vient de dire. Mettons les points sur les i, les accents circonflexes sur les o, bref, partons ensemble sur de bonnes bases, grâce à Damien Méchery, auteur parisien de l'ouvrage VGM, Histoire de la musique de jeux vidéo, publié aux éditions Pixel Love. Premier livre à paraître sur le sujet en France, il s'agit d'un ouvrage dont la construction amène logiquement et en douceur le lecteur à une compréhension de la musique de jeux vidéo. En prenant comme point de départ la musique au cinéma, puis les évolutions techniques dans le jeu vidéo, l'auteur aborde les différentes facettes de la musique d'image, les défis et les enjeux relevés par les compositeurs à travers les époques. D'autres points plus spécifiques, comme celui sur la musique source, permettent d'englober dans ce récit le travail des sound designers, indissociable des bandes originales. Il y est également question de la distribution des bandes originales et des concerts autour de la musique de jeux vidéo.
On entend souvent des amalgames, parce que la musique de jeux vidéo, elle renvoie donc toute une imagerie qu'il y a dans la conscience collective, donc celle des fameux bip-bip, hein, puisque c'est comme ça qu'à la base les jeux vidéo ont commencé, donc qu'ils ont été intégrés dans la conscience collective. Mais ce qui est important, c'est vraiment de signifier que, au même titre que la musique de film, la musique de jeu, elle fait partie donc d'un tout, c'est-à-dire qu'elle est là pour apporter quelque chose à un support. Elle n'a pas été conçue pour elle-même. La musique de jeu, elle existe justement pour apporter quelque chose à un élément, tout comme des dessins vont être faits pour la direction artistique d'une œuvre. C'est la même chose. C'est-à-dire que la musique de jeu, là, par contre, le joueur va l'expérimenter en direct. Elle va évoluer donc ou pas en fonction de l'avancée dans le jeu, en fonction de plusieurs événements. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de faire cette distinction, parce que la musique de jeu, ben, elle englobe tout, on peut entendre de tout dans la musique de jeu, on peut entendre du rock, on peut entendre du jazz, on peut entendre de l'orchestral.
Puisqu'il s'adapte en fait à un projet plus global qui est le jeu vidéo.
Exactement, et après ça va être aussi le choix donc, du compositeur, ou le choix des producteurs ou de ceux qui s'occupent de développer le jeu, qui vont déterminer justement quel va être le style adopté. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que ce n'est pas le style choisi qui est important quand on parle de musique de jeu, c'est vraiment comment cette musique va être intégrée dans l'expérience globale donc que constitue le jeu vidéo. En parallèle avec la musique de film, on dit la même chose, la musique de film, alors qu'encore une fois, ce n'est pas un genre à part entière, hein. Loin de là, la musique de film n'a pas inventé les codes de la musique symphonique par exemple, donc elle ne fait que dériver de la musique savante, mais donc voilà, on est vraiment dans le même type d'idée, c'est-à-dire que musique de jeu, c'est une expression qui permet simplement de désigner donc la musique qui est utilisée dans un jeu vidéo, quelle que soit la forme de cette musique, parce qu'il peut y avoir une musique aussi qui est préexistante au jeu et qui va être utilisée dans le jeu. On l'appellera aussi de la musique de jeu vidéo dans le cadre de ce contexte, mais en dehors, ça sera de la musique tout à fait indépendante.
Toujours dans le livre, dans ce passage sur le cinéma, tu évoques ce moment où, dans les années 80, à partir des années 90, finalement, la musique dans le cinéma est devenue, les BO sont devenus plus ou moins interchangeables. Est-ce que c'est le cas dans le jeu vidéo aujourd'hui, qui suit peu ou prou le même parcours que la musique dans le cinéma? Maintenant, la musique de jeu vidéo est un peu débarrassée de ses contraintes techniques.
La musique de jeu vidéo ne peut pas être interchangeable de manière générale, parce que justement, chaque jeu va avoir son propre type d'expérience, donc va avoir une bande-son qui va être adaptée en fonction de cette expérience. Là où la musique de jeu va être interchangeable, c'est que dans le même titre que le cinéma, quand les jeux eux-mêmes vont être interchangeables, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, par exemple, des séries...
Dans des genres bien balisés.
Des genres bien définis, bien balisés, qu'on va retrouver la série des Call of Duty, on peut très bien prendre la bande-son de tel épisode, la mettre pour un autre, ça va être pour le coup vraiment interchangeable, et c'est aussi ça le problème, à mon sens, c'est que justement, pas mal de compositeurs du monde du jeu vidéo commencent à s'inspirer, à faire des émules en tout cas de la musique de films hollywoodiennes qu'il y a depuis les années 90, donc de tout ce qui est dérivé des créations d'Hans Zimmer et de son studio.
Le fameux électro-rock qu'on entend partout.
Voilà, électro-rock, électro-symphonique qu'on entend vraiment partout et qui est pas très intéressant, mais surtout voilà, c'est très facile en fait pour le cinéma à monter ce genre de musique, parce que ça leur permet de faire des découpages très simples dans les portions des morceaux. Alors que dans le jeu vidéo, finalement, c'est juste que ils savent composer que ça, donc il y a une certaine facilité qui revient là-dedans. Mais à mon sens, non, le jeu vidéo continue de prouver qu'il y a moyen d'être créatif dans la composition, et plus encore que dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment une espèce de renouvellement de la composition dans le jeu vidéo, qui est plus régulier. Il y a plus de prise de risque dans le jeu que dans le cinéma, en tout cas ces dernières années. Donc c'est là-dessus justement qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant à creuser. Je vais esquiver toutes les périodes où j'étais plutôt adolescent, où justement je faisais vraiment pas attention à ce que la manière dont la musique allait être intégrée, même si je le ressentais quand même. Parce que c'est ça qui est important au final, c'est juste que j'arrivais pas à l'analyser, en tout cas à décortiquer. Voilà, j'avais pas le recul pour comprendre pourquoi à ce moment-là ça fonctionnait. Le premier moment où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était en faisant Silent Hill 2. Là, je me suis dit.
La BO composée par Akira Yamaoka.
Tout à fait. Et où il a fait un travail à la fois de sound design et de composition qui est absolument extraordinaire et qui sortait de tous les sentiers battus, de tout ce que j'avais pu entendre au cinéma ou dans un jeu vidéo, et surtout dans la manière dont ces éléments s'imbriquaient dans ma manière de jouer, en fait, et comment il jouait avec moi, justement, le jeu, à partir de ces éléments sonores, à partir de ces éléments musicaux. Il y a même plusieurs passages dans le Silent Hill 2 où il ne se passe strictement rien, et pourtant la musique change et devient complètement oppressante, voire viscérale, enfin, nous faire sentir des choses très profondes, alors qu'à l'écran, il n'y a rien. C'est elle qui fait la mise en scène. Et c'est très intéressant là-dessus, parce que c'était vraiment la volonté de Yamaoka. Déjà, dès le premier Silent Hill, il avait dit qu'il voulait faire en sorte de prendre à contre-pied les joueurs en leur faisant écouter des choses dont ils n'avaient pas l'habitude. Ouais. Et pour le coup, il a poussé la chose beaucoup plus loin avec le 2. Et donc, je pense que c'est vraiment avec Silent Hill 2 que j'ai compris véritablement que pouvait être que la musique de jeu pouvait apporter quelque chose d'exceptionnel lié au cœur même de ce que peut être un jeu vidéo, à savoir l'interaction.
On va maintenant s'intéresser à un joli succès français, celui de Blocks That Matter, un puzzle game matiné de plateforme produit par le studio bordelais Swing Swing Submarine. Conçu à peu près par 2 personnes et demie, Blocks That Matter est non seulement très ingénieux, mais également bourré de références dont Tetris, Minecraft ou encore Super Mario Bros. Des puzzle games, il en existe une tétrachier sur la scène indie, mais celui-ci possède une saveur toute particulière, en partie due à ses musiques. C'est Jan van der Kruisen, connu aussi sous les pseudos Morusk et Nurikabe, qui a été l'artisan de la bande originale. Morusk est un artiste un peu touche-à-tout qui oscille entre le graphisme, le game design, la vidéo et bien sûr la composition. Très influencé par la musique jeux vidéo des années 90, les RPG japonais en particulier, Morusk capture l'essence de cette époque rétro tout en la modernisant. N'ayant plus beaucoup de temps pour jouer, ses influences majeures sont à chercher dans de grands RPG de l'époque Super Nintendo, comme Earthbound par exemple. Plus récemment, et parmi les indés, il apprécie particulièrement le travail de ses collègues Niklas Nygren et Thomas Dvorak, qui a bossé sur la BO de Machinarium entre autres. Thank you. Sur la scène indé du jeu vidéo et toujours parmi les compositeurs parisiens, on trouve aussi le jeune Sylvain Héliot, fondateur de Bande de Son, un studio de production qui a fait de la musique d'image sa spécialité. On lui doit les bandes originales de petites pépites vidéoludiques comme Maestro, Jump in Music ou encore Nervous Breakdown. Avant de se spécialiser dans la musique d'image et le jeu vidéo en particulier, Sylvain Héliot a étudié l'écriture et l'harmonie à l'université Paris 4. Il est aussi passé par l'IMFP avant de s'investir dans le duo musical Yubaba Smith & Fortune. Plus tard, avec son studio Bande de Son et aux côtés de son acolyte Xavier Thierry, ils se font remarquer avec les musiques de deux jeux parisiens. Tout d'abord, Hell Yeah Wrath of the Dead Rabbit, un plateforme shooter délicieusement débile et nerveux, sorti des fourneaux du studio Arkedo. Puis le tout récent Pix the Cat, puzzle game lui aussi frénétique, mitonné par le studio Pasta Games. Pasta Games et Bande de Son, deux studios, l'un vidéoludique, l'autre musical, deux incontournables de la scène indé parisienne. Paris est un lieu privilégié en ce qui concerne les concerts de musique de jeux vidéo. Principalement porté par deux acteurs, à savoir La Fée Sauvage et Wayo Records, la musique de jeu en concert attire un public quasi exclusivement joueur, bien que la musique de jeux vidéo ne soit pas un genre en soi. La musique de jeux vidéo, c'est avant tout de la musique, mais le chemin jusqu'à l'attrait du grand public pour ces concerts symphoniques semble encore assez long. Romain Danois nous présentait il y a quelques mois le label qu'il a cofondé, Wayo Records, spécialisé dans la musique d'image. Il dressait alors un état des lieux des concerts musicaux ludiques à Paris.
Organiser des concerts, c'est relativement simple d'un point de vue juridique. Il suffit de payer la SACEM. Bon, après, moi, je peux pas faire un concert Star Wars demain. J'aurai des problèmes de droit, d'utilisation de noms, d'images, de partitions. Voilà. Mais après, jouer la musique avec un compositeur, jouer la musique de Rayman en concert, a pas besoin de l'accord d'Ubisoft. D'ailleurs, on joue la musique, on paye la SACEM, et voilà. Donc effectivement, à partir de là, faire des concerts, c'est très facile. Il y a des concerts qui sont de plus en plus. Il y a eu Final Fantasy Distant World, c'était un grand succès, c'est un très beau concert. Il y a d'autres concerts qui vont arriver, en toute logique, des grandes licences, dans le jeu vidéo ou ailleurs. Si ça se fait pas, c'est juste que le public n'est pas évident à identifier, et les producteurs se posent la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on on va pas droit dans le mur, est-ce qu'il y a un public pour ça, c'est la seule raison. Après, faire des concerts, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile que de faire un album. C'est mille fois plus facile que de faire un album.
Et puis ça continue, on a une très belle année en matière de musique de jeux vidéo en France, en Allemagne. On a eu Nobuo Uematsu qui est venu, on a Masashi Yamauzu avec Wayo Records. En janvier prochain, il y a Distant World, le concert officiel Final Fantasy qui arrive, qui est une vraiment une bonne nouvelle. Et puis il y en a d'autres, il y a le concert officiel Zelda qui pourrait venir à Paris, pourquoi pas
l'année
prochaine.
Il y a les Video Game Music, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Video Games Live plutôt.
Video Games Live. C'est un grand standard rejoué par un orchestre.
C'est ça, c'est un show à l'américaine avec guitare électrique et compagnie. C'est un show super.
Ça marche fort.
C'était passé à Paris trois années de suite, mais ça fait deux ans qu'ils ne viennent plus.
C'était l'année dernière, je crois, la dernière fois.
Non, c'était l'année d'avant encore. C'était l'année d'avant encore.
Voilà. Mais du coup, voilà, les concerts sont amenés à se multiplier, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça fait vivre la musique, sans son support d'origine. Ça permet de rassembler les gens, donc il y a un côté communautaire, il y a un côté festif. On montre une belle facette du jeu vidéo, c'est toute la partie artistique et créative.
Bah oui, il voit qu'il y a des musiciens, voilà. En fait.
Et puis du coup, je pense que cet avenir-là, c'est-à-dire la musique de jeu vidéo, mais sans le jeu vidéo, est assez prometteur.
On termine ce starting block avec le dernier projet du studio parisien Dontnod qui avait accouché en 2013 et dans la douleur du jeu Remember Me, sublime vision vidéoludique d'un Paris futuriste pensé entre autres par l'auteur de La Horde du Contrevent, Alain Damasio. Boudé par la critique et par le public, Remember Me porte a posteriori et ironiquement assez mal son nom, mais on espère que le nouveau jeu du studio restera lui dans la mémoire des joueurs. Life is Strange, c'est le nom de ce nouveau jeu épisodique dont le premier chapitre sort à la fin de ce mois de janvier. Jeu d'aventure dont le scénario propose aux joueurs des choix multiples de réponses dans les dialogues, Life is Strange tentera de nous mettre dans la peau d'une adolescente un peu mal dans sa peau, un peu timide et surtout un peu hors du commun puisqu'elle possède le pouvoir de remonter le temps à sa guise. On attend beaucoup de cette aventure mélancolique et si l'on ne sait pas trop ce que cela va donner concrètement en jeu, on sait déjà que celui-ci sera porté par une bande originale pas dégueulasse puisqu'on y trouvera du Pete Gervais, du Sparkle Horse ou encore Rosé Gonzalez. Surtout, la bande originale officielle et toutes les musiques d'ambiance ont été composées par le parisien Jonathan Morali, que l'on connaît surtout pour son groupe Sid Matters. Bande originale pas encore dispo au moment d'enregistrer ce starting block, mais c'est à surveiller. Et en attendant, on se quitte avec To All of You, l'un des morceaux phares de Sid Matters, utilisé à bon escient dans le jeu Life is Strange.
To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside,
watching the world from the bright side. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had talking about